Bonjour à toutes et à tous, il est 17h02 et oui, nous avons 2 minutes de retard. Nous sommes le mercredi 12 avril 2023. Vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, donc tout est parfait. Merci de nous rejoindre sur ces ondes qui, j'espère, sont vos ondes favorites. Alors Au fil des pages, comme d'habitude, une émission présentée et proposée par des passionnés du livre et de la lecture. Aujourd'hui, Frédéric, Marie, Dominique, Francis et notre invitée Isabelle Louviau qui va nous parler de son livre consacré à Élisée Reclus, Penser l'humain et la terre, publié aux éditions du Tripode. Les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 17h à 18h30, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois sur notre radio. Alors, en avril, eh bien évidemment, on ne va pas se découvrir d'un fil. On lit, on lutte encore et toujours. Et pour nous contacter, vous pouvez nous écrire sur notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Aujourd'hui, quelques livres pour alimenter le débat. Hervé Lebras, il n'y a pas de grand remplacement. Un livre de Sabine Huyn, Elvis à la radio, publié chez Nadeau, un bouquin classique de George Woodcock, L'anarchisme chez Lux. Ensuite, un entretien, un échange avec Isabelle Louviau. Puis, un livre d'Anne Steiner, Rirette l'insoumise. Et un livre de Chalamoff, Souvenir de la Colima. Et enfin, Dominique nous parlera, dans la série Les romans de la vie, d'un livre de Phil Cazoar, L'Arsène Lupin des Galetas. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter tes deux annonces ou pas?
Bien sûr, oui. Il y aura des choses qui vont se passer à Publico. Alors, il va y avoir le 19 avril à 20h... Le Ciné de la Commune, un documentaire de Catherine Fumet et François Guérouet, Notre Terre mourra proprement. La première partie du documentaire sera visible à partir de 20h le mercredi 19 avril. C'est pour thème l'enfouissement des déchets nucléaires. Et aussi, il se passera quelque chose d'autre aussi la même semaine, le dimanche 23 avril à 16h, une causerie populaire et libertaire. Non, le nucléaire n'est pas écologique, avec la participation des membres du CCOA ADN 75 nucléaire danger renouvelable. Voilà, donc il y aura des intervenants et tout ceci à partir de 16h, donc 145 rue Amelot, métro Oberkampf ou Fille du Calvaire. Voilà, je te repasse le micro, Francis.
Bien, premier temps pour ouvrir le débat. Aujourd'hui, Marie, tu vas nous parler d'un livre qui conteste, chiffre à l'appui, une des grandes thèses de l'extrême droite. Il n'y a pas de grand remplacement. Livre écrit par Hervé Lebras. Alors, Marie, explique-nous un peu cette histoire.
Oui, alors déjà pour bien contextualiser, donc le grand remplacement, donc c'est une notion qui a été introduite par l'écrivain et militant d'extrême droite Renaud Camus, qui n'a rien à voir avec Albert Camus, bien sûr. Donc en fait, il définit le grand remplacement justement comme le remplacement imminent et massif de la population européenne de souche par une population issue de l'immigration africaine. Donc en clair, si l'on croit à ces théories racistes et xénophobes relayées par Renaud Camus, les populations européennes, blanches et chrétiennes, sont menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane venue du Maghreb et de l'Afrique noire. Donc, et ça à l'horizon 2050, donc c'est dans un avenir assez proche. Donc dès le début des années 1980, le magazine Le Figaro, idéologiquement de droite, contribue justement à la diffusion de ses idées et de ses thèses sur le grand remplacement, et ce par le biais d'études statistiques prévisionnelles très exagérées en matière de démographie et d'immigration. Ces études font également le parallèle quasi systématique entre musulmans et terroristes, arabes et islamistes. Donc en fait, ce livre démontre en fait que le remplacement, enfin ce qu'a voulu démontrer Hervé Lebrun à travers ce livre, c'est que le grand remplacement n'est autre qu'une stratégie de manipulation de masse en fait, utilisée par donc des idéologues et des politiques d'extrême droite. Comme Éric Zemmour, par exemple, qui s'appuie sur la peur et la crainte de ceux qui les écoutent pour les inciter toujours un peu plus à la xénophobie et à l'islamophobie. Et le pire, c'est que ces théories douteuses fonctionnent, en fait. C'est d'ailleurs le fonds de commerce qui a permis à Éric Zemmour de se présenter aux élections présidentielles de 2022. Et à noter qu'en octobre 2021, une étude réalisée par l'Institut Harris Interactive a révélé que 61% des personnes interrogées, donc âge confondu, classe sociale confondue, donc 61% de ces personnes pensent que le phénomène du grand remplacement va se produire en France. Donc, à l'instar du complotisme, en fait, le grand remplacement pose finalement un vrai problème de fond, celui de la manipulation des esprits par des théories complètement truquées, qui pourtant trouve une certaine légitimité auprès d'une catégorie de population très crédule, qui pense que parce qu'elles sont relayées par des journaux, des livres, des hommes politiques, elles peuvent être validées. Et le grand remplacement et toutes les craintes qu'il suscite chez les Français coïncident d'ailleurs avec l'avènement de la crise migratoire que connaît l'Europe depuis le début des années 2000. Et en fait, cette crise migratoire, elle a été instrumentalisée donc par les politiques d'extrême droite, pas uniquement Marine Le Pen, bien sûr. Enfin, je ne vais pas vous citer toute la clique, mais donc elle a été vraiment instrumentalisée dans le but de convaincre un électorat bien ciblé, qui est celui du monde rural en fait, qui compte paradoxalement un pourcentage d'immigrés nettement inférieur à celui des métropoles. Enfin, c'est vrai que les immigrés, on les retrouve pas dans les petites provinces. Ils sont surtout concentrés en région parisienne, à Marseille.
Alors qu'on a eu, dans certains départements, je pense par exemple au département de la Marne, un vote Front National, alors que franchement, c'est pas dans la Marne qu'on trouve le plus d'immigrés.
Non, pas du tout. Et en fait, des études ont été aussi parallèlement réalisées en 2021 et elles ont démontré que les préoccupations des ruraux et des provinciaux ne sont pas centrées sur l'immigration, loin de là, mais davantage sur donc la situation sanitaire. En 2021, il y avait encore le Covid, le pouvoir d'achat, l'emploi, l'éducation. Et en fait, les stratégies de l'extrême droite tendent à dramatiser en fait une situation qui préoccupe une certaine population, en soulignant par exemple donc que l'immigration peut accroître le taux de chômage ou accroître l'insécurité, ainsi que le terrorisme, etc. Et donc en fait le triste constat que démontre cet ouvrage, c'est qu'aujourd'hui en France, le discours scientifique a beaucoup moins d'audibilité, de portée et de légitimité que le discours rhétorique, politique et populiste. Voilà.
D'accord. Donc ce livre.
Donc il n'y a pas de. Oui. Donc il n'y a pas de grand remplacement. Donc par Hervé Lebrun, paru aux éditions Grasset en mars 2022.
D'accord. Très bien. Merci. Alors, avant de présenter notre deuxième ouvrage, nous allons écouter, et c'est quand même assez rare sur Radio Libertaire, un Elvis Presley, deux dans White Christmas, mais vous allez comprendre pourquoi. Frédéric, on envoie Elvis.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, card I write. May your day be merry and bright. Your Christmas is me white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and behold, your Christmas is be
Aucune histoire n'est simple, certes, et sans doute pas celle-ci. Encore une évidence sur une quatrième de couverture, bah, attendez la suite. Née à Saïgon, au Vietnam, la narratrice quitte ce pays durant sa petite enfance avec sa famille pour venir en France. Nous savons que la vie est rude pour ces réfugiés, pour tous les réfugiés. Et Stefan Zweig nous rappelle la souffrance de celui qui doit partir. Alors dans ce livre, Elvis à la radio, et vous allez comprendre pourquoi, Sabine Huyn explique comment ça s'est passé, comment la mémoire des faits les a quittés parce qu'ils ont vécu d'autres événements. Et pour certains de ces réfugiés, elle rappelle qu'ils ont perdu la mémoire. Où sont ses souvenirs d'enfance? Sa grand-mère restée au Vietnam, des images un peu troubles, comme le sol de la maison. Les souvenirs la fuient, la poussant à plonger dans les eaux glacées de l'oubli, à se perdre, comme on peut le considérer, dans les méandres qui l'ont construite pour retrouver son histoire. Là, je cite la quatrième de couverture qui donne une dimension poétique réelle à ce livre. Ben, soulignons que Sabine Huyn est traductrice de poésie. Alors, elle cherche à raconter cette histoire, elle cherche à raconter son histoire, et elle a tendance à se répéter. Oui, et je cite, « Répéter pour qu'à la fin il reste quelque chose, revenir sur nos pas, écrire, narrer pour ne pas oublier ce que nous avons été et de quels mots nous sommes faits. Les souvenirs, vagues, se raffermissent, deviennent des traces plus sûres qui laissent observer et suivre un chemin qui se dessine peu à peu. Et le livre est ainsi construit de souvenirs relatés dans des chapitres assez courts, comme des petits films de famille et d'actualité. Vous savez, ces Super 8 qu'on avait dans le temps. L'auteur donne le sentiment de se construire sous nos yeux. Et par où commencer? Le vrai problème est évidemment de commencer. Et rappelle Georges Perec dans une lettre à Maurice Nadeau. Alors, le livre traduit la complexité de la vie de Sabine Huyn, elle qui a connu deux naissances au Vietnam et en France, dans une banlieue sinistre. Comment exister? Ces gens s'intègrent très bien? Ah bon? Et quelle souffrance endurée? On ne le sait pas. Quelle folie pour certains. Cette mère qui déteste sa fille me fait penser à Poil de Carotte. Et l'auteur mentionne ce livre, ou encore à Vipère au Poing. Certains passages du livre sont rudes, comme la scène du couteau, la fuite, les menaces, les insultes. Et la vie du père au travail, des phrases qui font songer au livre de Joseph Pontus, À la ligne, dont nous avons parlé dans cette émission il y a quelque temps, ou encore La condition ouvrière de Simone Veil. Sabine Huyn explique le besoin d'écrire qui soulage, comme une forme d'exutoire. il y a un très beau passage sur les plus belles pages de la poésie française, du Reader's Digest de la poésie, et je comprends son sentiment à l'égard de ce livre offert par son grand-père. J'en ai moi-même un exemplaire, il est dans ma bibliothèque pendant que j'écris cette chronique, et il m'a été offert par ma mère voici 40 ans. Et j'aime beaucoup le passage aussi où elle décrit le monde de la rue. Et peut-être qu'Hervé, l'auteur d'écriture carnassière que nous avons déjà commenté aussi, qui lui aussi a publié un livre chez Maurice Nadeau dans cette même collection, pourra-t-il se reconnaître dans ce ressenti ? Et puis, la richesse d'un livre réside dans sa complexité. Et Elvis à la radio contient plusieurs livres. Je vous laisserai les découvrir, mais il y a tout de même des moments étonnants où il n'y a pas que la question du rapport entre la fille et la mère, entre l'histoire du Vietnam, les difficultés d'insertion dans une société qui n'est pas la leur, et puis le fait d'avoir le sentiment de perdre son identité. Et puis, je voudrais encore souligner la qualité typographique, l'élégance des caractères et le choix des citations et la mise en valeur de ces citations. On reconnaît bien là la qualité des éditions Maurice Nadeau. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ont-ils passé une chanson d'Elvis Presley? Eh bien, tout simplement parce que quand les Américains ont dû partir du Vietnam, du sud du Vietnam, de Saïgon, c'est la chanson qui servait qui servait de signal, de déclencheur à la fuite des Américains. Donc voilà, c'était assez intéressant d'expliquer pourquoi il y avait cette chanson que nous avons écoutée. Frédéric, un tout petit intermède musical, toujours signé Furax. Est-ce que ça marche, Frédéric ? Alors, un livre pour nous préparer à parler de ce grand anarchiste qu'était Élisée Reclus, un livre, un classique là aussi de George Woodcock, L'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires, publié aux éditions Luxe en 2022. Les éditions Luxe se sont fait une spécialité de publier des œuvres portant sur l'idéal de liberté. Et j'ai eu l'occasion de présenter La liberté ou rien, un recueil de textes d'Emma Goldman en janvier 2022, et puis plus récemment Le manifeste de l'anarchie de Bellegarigue en décembre 2022. Tous deux sont sur le site du Monde Libertaire dans la rubrique des idées et des luttes. On peut s'y référer si ça vous intéresse. Et là, je voudrais insister sur la réédition d'un classique. Il faut dire que George Woodcock est un personnage étonnant. Journaliste, poète, éditeur, historien. Ses livres ont été salués par plusieurs prix, notamment un que j'aime beaucoup, Orwell à sa guise, qui a été publié lui aussi chez Luxe, un ouvrage vraiment de référence pour lire et découvrir George Orwell. Alors, l'anarchisme, là, la première édition de ce livre, date des années 1960. Et Woodcock considérait que la fin de l'anarchisme se situait en 1939, avec la chute de Barcelone. Il a repris son analyse, et si, certes, le mouvement perdait son caractère de masse, l'idée, elle, était toujours vivante pour reprendre la formule de Victor Hugo relative à la Commune de Paris. Je cite Woodcock. Cette affirmation de l'interdépendance fondamentale de la liberté, de la réalisation de soi et de la solidarité constitue la véritable leçon de l'anarchisme. Depuis cette première édition, l'anarchisme est réapparu sous de nouvelles formes, adaptées à un monde qui se transforme. Et oui, le monde se transforme. Alors certes, la prolifération du « A » cerclé dans le monde traduit la fraternité anarchiste et personne ne peut considérer que cette idée est moribonde. Elle mute, elle s'adapte, elle intègre d'autres luttes en influençant des contre-cultures. S'appuyant sur les faits de son vivant, Woodcock mentionne mai 68, les manifestations aux Pays-Bas. Bah, il n'a pas connu la suite, bien sûr, mais aujourd'hui, l'idée gagne des classes sociales qui ne sont pas uniquement ouvrières et des régions où elle était inconnue. Aujourd'hui, des scientifiques, des historiens prennent au sérieux ce mouvement et il y a de réels débats sur des thèmes anarchistes. Alors le livre s'arrête en 1986. Le lecteur y retrouvera en première partie les fondamentaux théoriques de l'idée. Les principaux acteurs, Proudhon, Stirner, Bakounine, Kropotkine, Tolstoï, Godwin, avec une analyse comparative des conceptions de chacun. Et puis la seconde partie reprend la présence et l'action des anarchistes dans le monde. De la France à la Russie, des États-Unis à l'Espagne. Et l'ouvrage comporte plus de 500 pages. Alors le lecteur un peu averti pourrait regretter des allusions, des omissions, mais comment synthétiser la richesse d'un tel mouvement dans un ouvrage? C'est pourquoi Woodcock nous invite à la découverte d'une riche bibliographie. Elle est vraiment assez étonnante. Et puis surtout, il nous propose des pistes de réflexion avec des auteurs comme Bookchin, Goodman, et des idées à réactualiser, car la souplesse intellectuelle de l'anarchisme en fait en réalité une idée toujours moderne. Et j'aime la conclusion de l'ouvrage. Woodcock cite un poète libertaire, Herbert Read. De mon étude de l'histoire de la culture, je conclus que la société idéale est un point situé sur un horizon qui ne cesse de reculer. Nous ne cessons de nous en rapprocher, mais nous ne pouvons jamais l'atteindre. Il nous faut cependant nous engager avec passion dans les luttes immédiates. Ce serait une très belle formule pour l'anarchisme. Alors, je rappelle le titre. L'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires. George Woodcock, aux éditions Lux, publié en 2022. Je rappelle que l'ensemble des livres dont nous parlons, vous pouvez les retrouver, les commander sur le site de Radio Libertaire, vous pouvez les commander chez Publico, et puis vous pouvez après découvrir d'autres et nous faire part d'autres livres que ceux que nous abordons. Alors, quand on parle d'anarchisme, évidemment, la figure d'Élisée Reclus transparaît. Nous aimons ce personnage dans l'émission Au fil des pages. Nous avons plusieurs fois présenté certains de ses livres et nous accueillons donc avec grand plaisir Isabelle Louviot pour son livre qui regroupe une biographie, des extraits d'ouvrages, des illustrations réalisées par Georges Peignard. Et c'est une très intéressante introduction à la vie et à l'œuvre d'Élisée Reclus, un personnage clé donc du mouvement anarchiste, qui a été arrêté par les Versaillais sur les hauteurs de Châtillon et de Clamart le 4 avril 1871. Alors, nous sommes le 12, certes, mais on n'est pas très loin quand même de ce moment qui a été un moment de souffrance et pour Élisée Reclus. Il a manqué y perdre sa vie et heureusement qu'il y a eu une pétition pour le sauver. Malheureusement, d'autres ne pourront pas s'en sortir, mais lui a réussi à s'en sortir. Alors, bonjour Isabelle Louvian.
Bonjour.
Vous avez publié avec Georges Peignard ce livre aux éditions du Tripode. Alors, avant d'aborder le contenu de l'ouvrage, pouvez-vous nous présenter les éditions du Tripode ?
Oui. Donc, le Tripode, c'est une maison qui a été créée en 2012, donc qui est une maison jeune et belle pour moi. Qui a notamment, parmi les grandes figures qui ont été publiées par la maison, il y a Golada Sapienza, qui est une auteure italienne très importante. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, dans le catalogue du Tripode. Bérangère Cournut, récemment aussi, qui a notamment publié de Pierre Edos, et un texte qui s'appelle Élise sur les chemins, et qui est une libre interprétation, un conte en vers, libre interprétation de la vie de la fratrie reclue. Donc il y a un rapport entre ces deux livres. Une autre femme que je suis en train de lire, qui est Sigolène Vinson, qui écrit un très beau texte qui s'appelle La Palourde, qui sort en ce moment. Donc c'est une des accroches de la maison, c'est ouvrir un lieu d'asile aux esprits singuliers, qui était une formule de Jean-Jacques Pauvert, qui est une figure tutélaire de la maison. Et voilà, et je trouve que la maison représente bien ça. Et je mentionne aussi un autre auteur qui est mon co-auteur là, qui est Georges Peignard, qui a publié d'autres ouvrages uniquement avec des images, et qui vient de publier un texte qui s'appelle Magdalène, qui est un texte là aussi très beau, qui est un ensemble d'impressions, d'évocations sur le temps qui passe, le travail avec les mains, les outils, la nature. C'est très très beau.
Alors, bon, évidemment, Élisée Reclus, avec ce que vous venez de décrire, a tout à fait sa place dans cette maison d'édition. Mais pourquoi vous vous êtes intéressé à ce personnage? Qu'est-ce qu'il avait de si intéressant?
Le point de départ, ça a été la discussion qu'on a eue avec l'éditeur qui souhaitait justement offrir un lieu d'asile à cet esprit singulier. Et en discutant ensemble, on s'est dit... il y aurait une place pour faire un livre porte d'entrée dans ce personnage immense, avec une œuvre immense. Il a son œuvre géographique, c'est quand même 27 volumes entre 800 autour de 800 pages chacun. Donc c'est énorme, qui a été très connu de son vivant, qui est très connu quand il meurt, et qui après traverse une période où on l'oublie un peu et on le redécouvre dans les années 70. Mais même aujourd'hui, finalement, les anarchistes le connaissent. Mais il n'est pas si connu que ça. Et donc, l'idée d'en parler et de voir comment cette pensée aussi, c'est ça qui est intéressant, résonne avec notre aujourd'hui, nous a paru intéressante. Voilà.
Alors, il faut savoir, par exemple, qu'il y a une avenue Élisée Reclus à côté de la Tour Eiffel, mais je suis persuadé que les gens qui passent là et qui habitent là ne savent pas du tout qui est Élisée Reclus. Alors, comment avez-vous conçu l'ouvrage ? Est-ce qu'il est assez intéressant comme...
Alors, l'ouvrage, vous l'avez évoqué, donc il y a deux parties, une partie une vie, une partie une œuvre, une partie donc récit de vie, de la naissance à la fin de vie à Bruxelles, et une partie anthologie avec un choix de textes le plus large possible pour montrer toute la palette d'écriture d'Élisée Reclus, à la fois la correspondance, les textes politiques, les textes scientifiques, géographiques, les récits de voyage. Et puis, le troisième élément de ce trépied du haut tripode, c'est les illustrations de Georges Peignard, Georges a travaillé à partir de sa lecture d'Élisée Reclus. Il n'a pas du tout illustré mon texte. Il a fait une cinquantaine de peintures avec ce qu'il avait lu d'Élisée Reclus, et il a beaucoup lu. Et c'est seulement après, au niveau de la mise, quand la mise en page a été réalisée par l'éditeur, que on s'est rencontrés en fait dans les pages.
Ah oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas sélectionné les textes pour ensuite les illustrer. C'est vraiment un travail
à deux voix.
À deux voix, on est parallèle. Ils sont très intenses, ces dessins.
Oui, c'est très vraiment, beau.
Alors, on a On a beaucoup écrit sur lui, il a beaucoup écrit. Il est très peu connu, vous le soulignez aujourd'hui. Je rencontrais l'autre jour une jeune géographe et je lui disais, Élisée Reclus, je ne sais pas ce que c'est, alors qu'il y a quand même le GIP Reclus. Oui, je connais le sigle, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit non, c'était le nom d'une personne auparavant. Et pourquoi, selon vous, est-il oublié aujourd'hui ? Parce qu'il était anarchiste ?
Alors, oui, ça a compté sûrement. Ça a compté beaucoup. C'est vrai qu'il a toujours souhaité... Pour lui, c'était indissociable. Il était géographe et anarchiste, et les deux se combinaient. Il vivait les deux de façon complètement articulée. Quand il a publié ses ouvrages de géographie, de vulgarisation scientifique en géographie, la géographie n'était pas encore une discipline universitaire très constituée. Et d'ailleurs, il n'a pas cherché à avoir une place à l'université. Quand la géographie s'est constituée en chaire, il y a eu un certain nombre de chaires de géographie qui sont créées, assez vite, on ne l'a pas considéré. On a dit... Alors, je pense notamment à Vidal de Lablache qui a dit Élisée Reclus, c'est dépassé. Et donc, assez vite, il a été un peu relégué en tant que géographe. Et c'est donc dans les années 70 que Yves Lacoste et Béatrice Gibelin l'ont redécouvert, ont consacré des numéros d'Hérodote à son œuvre, à son travail de géographe. Et c'est à ce moment-là qu'il y a d'autres chercheurs qui se sont intéressés à lui. Et la géographie a redécouvert, on pourrait dire ça comme ça, Élisée Reclus. Aujourd'hui, on peut en parler dans l'histoire de la géographie. J'ai rencontré
peut-être
un certain nombre de gens qui...
méthodes ont changé, la lecture a changé, mais le lien entre la nature et les hommes, c'est une marque Reclus, ça.
Ah oui.
Et alors, vous le présentez comme un être lumineux. et la couverture qui est réalisée par Georges Peignard en est la preuve.
Oui, enfin, quand on elle regarde, est lumineuse. Elle est à la fois... terreuse et lumineuse.
Mais le regard est fascinant.
Le regard est magnifique. C'est un visage, moi je dis ça comme ça, parce que c'est comme ça que je l'ai senti tout de suite. Il a un visage paysage, donc il évoque vraiment, son visage évoque, ou la façon dont Georges l'a représenté évoque la Terre. Et puis il a ses deux yeux très clairs et très clairs dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il voit clair et il a un regard clair pour regarder le monde. Enfin, il a quelque chose de très, très intense.
Voilà. Alors, vous, dans la partie biographie, vous énoncez toutes les facettes d'Élisée Reclus, et notamment son végétarisme. Avec la scène du boucher, elle vous a marqué, cette scène du boucher. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui. Donc, il était végétarien. Donc, quand il est jeune adulte, il devient végétarien. Ce qui n'était pas courant à l'époque. À la fin de sa vie, il va publier dans une revue végétarienne belge un article en faveur du végétarisme. Il va d'emblée, non pas commencer par toute une théorie avec des arguments d'adultes, il va parler d'un souvenir d'enfance en disant d'une certaine façon que c'est ce souvenir-là qui a fondé son végétarisme. Et ce souvenir, c'est... on lui demande, il vit dans un village et quelqu'un de sa famille lui demande d'aller chercher un morceau de viande chez le boucher, qui à ce moment-là était un boucher à ciel ouvert, une boucherie à ciel ouvert dans une cour où on venait de tuer un agneau et il y avait du sang partout. Et donc le petit Élisée arrive avec son petit récipient pour aller acheter une pièce de viande qu'on lui avait demandé de rapporter. Le spectacle du sang, de l'animal mort, est tel qu'il s'évanouit et que le boucher le ramène ensuite chez lui. Je ne pesais pas plus lourd que cet agneau, en fait. Et disant ça, il dit vraiment qu'il se sent à égalité vraiment avec l'agneau, comme ils se sentent à égalité avec les hommes, de façon générale, les êtres humains, il ne fait pas de différence. C'est-à-dire, c'est un être vivant qui a toute sa considération. Et voilà. Et ce texte qu'il écrit, alors qu'il a 70 ans passés, il l'écrit en repensant à ce souvenir-là qui a été très fort et qui a été fondateur pour lui.
Alors c'est intéressant, c'est le lien entre les hommes et les animaux qu'on va retrouver chez quelqu'un comme Louise Michel, qui est aussi très portée sur la protection de l'animal, ou sur une femme dont nous allons reparler dans une autre émission, Marie Huot, qui était néo-malthusienne et qui, en parallèle, défendait aussi la cause animale. Alors, il va devenir athée, avec un père pasteur, plutôt tendance stricte, globalement. Mais est-ce qu'il ne va pas lui rester des valeurs morales?
Oui, alors donc il naît dans une famille protestante avec un père pasteur.
Où ça déjà ?
À Sainte-Foy-la-Grande. En Dordogne. Le père pasteur, le père très, très exigeant, très dur, se posant beaucoup de questions sur la façon dont il doit exercer cette mission, démissionnant, créant sa propre église parce que c'était pas assez tenu. Enfin, donc il y a quelque chose de très très exigeant. Élisée et son frère aîné Élie, c'est une grande fratrie, hein, de 14 enfants, mais les deux fils aînés font des études de théologie. Le père pasteur espère et souhaite qu'il soit pasteur, et l'un et l'autre déclinent et refusent cela. Et deviennent complètement athées l'un et l'autre. Et Élisée raconte que qu'ils ont été dégoûtés de la Bible. Alors, effectivement, ils deviennent athées, Élisée devient athée, il y a aussi, mais il reste en Élisée une grande... moi, je parle d'éthique, une très très grande éthique, une très grande conscience de ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire, et au nom de quoi il fait les choses. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il agit, ou quand il parle de ses actes, quand il écrit sur ses actes, on sent que les deux, les écrits et les actes, sont aussi importants. Et ça, je pense que le père portait ça aussi très fort. La différence entre les deux, c'est que, bon, dans un cas, il y a Dieu, et d'autres, dans l'autre, il n'y a plus de Dieu. Mais l'autre différence, c'est aussi que le père... En tout cas, la représentation que je m'en suis faite, c'était vraiment quelqu'un de très dur et de très austère et de très mortifère, alors que Élisée Reclus était un être rayonnant, joyeux, vivant, inventif, heureux. Il cultivait l'amitié, l'amour. Enfin, il avait quelque chose de très très ancré dans le monde et dans la joie du monde.
Il y avait une forme de tribu Reclus.
Oui.
La famille,
oui.
Les amis.
Oui.
Enfin, on se retrouvait.
Oui.
Bon, il est très proche, évidemment, de toute une série de communards, et notamment les communards vont réussir, pour certains d'entre eux en tout cas, à fuir la France. Il va se retrouver à Bruxelles, mais aussi en Suisse, et à chaque fois, il y a toujours du monde autour
de
lui.
Donc c'était effectivement une grande fratrie, 14 enfants, et avec un certain nombre de ses enfants, enfin de ses frères et sœurs, il va avoir des liens forts avec sa sœur Louise, avec son grand frère Élie, qui était vraiment... là, il y a une histoire d'amour très très forte entre les deux, c'est très étonnant. Ils sont enterrés au même endroit, ils meurent à une année d'écart.
Ils vivaient ensemble.
Ils ont beaucoup vécu ensemble, à Vasqueuil, à Paris. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges. Il a été très proche de son neveu, le fils de Paul.
Paul.
Le fils d'Élie. Et effectivement... Pas complètement, pas toute la fratrie, mais bon, une bonne partie de la fratrie. Ils ont fait des choses ensemble, travaillé ensemble. Chez Hachette, il a travaillé avec Onésime, un autre frère, avec Élie. Il y avait un cousin aussi, Franz Schrader, qui était géographe, cartographe. Donc, Il y avait cette notion de communauté, mais qui dépassait aussi la famille, effectivement, avec la communauté anarchiste. Il y avait quelque chose. C'était, moi, je dirais, c'est un mot d'aujourd'hui qui est peut-être pas très beau, mais c'était quand même un homme de réseau. Il avait des correspondants, il avait beaucoup de liens. Il a une correspondance énorme avec à la fois des amis, la famille, mais aussi des scientifiques, des journalistes. Enfin, il avait ce sens du lien. C'était pas du tout quelqu'un de mondain, hein, c'était pas ça, mais c'était au nom de la connaissance, l'amitié, la compréhension du monde, la discussion, tout ça était très... Il portait ça beaucoup.
C'est ce qui lui permettait d'écrire sa gigantesque géographie universelle, en étant proche aussi, évidemment, de Kropotkin, qui était lui aussi un grand géographe. Mais c'est pendant toute une période de sa vie... un géographe qui va sur place est-ce qu'il se contente d'observer les paysages ou est-ce qu'il regarde les hommes et les femmes dans la nature?
Alors, il avait une expression, il disait qu'il n'aimait pas ou qu'il se moquait en tout cas des géographes de cabinet, c'est-à-dire des géographes qui restaient avec leurs livres, dans leur bureau. Pour lui, et il l'a fait très tôt, il fallait aller voir le monde, marcher, se baigner, éventuellement faire aller dans l'air avec un ballon. Il fallait être au contact du monde et au contact physique et sensible et même sensuel des paysages du monde. Donc il a fait un premier grand voyage en Amérique pour ça, pour voir le monde. Et il en est revenu avec des récits qui sont à la fois des récits de voyage, mais déjà des écrits de géographes, où il lisait les paysages, il voyait comment ils étaient constitués, il voyait leurs aménagements. Donc il avait un rapport d'observation in situ et après de restitution. Et l'écriture, et c'est ça qui, moi, je trouve, une des choses que je trouve formidable avec lui, c'est l'écriture garde la trace de ce qu'il a traversé quand il y était, quoi. Il y a quelque chose du témoignage sensible qui reste très, très fort.
Et avec les hommes et les femmes qu'il côtoie, qu'il rencontre. D'ailleurs, votre sous-titre, c'est « Penser l'humain et la Terre ». C'est pas on fait un bouquin de géographie, quoi. C'est « Penser l'humain et la Terre ».
Oui, alors, ça c'est très, très tôt, et ça, c'est notamment les enseignements qu'il a reçus à Berlin quand il fait des études de géographie, issus des enseignements de Karl Ritter, qui était déjà dans cette question, enfin, dans cette liaison de la géographie, on va dire une géographie humaine, hein, c'est-à-dire qui intègre vraiment l'espace, les aspects physiques des paysages, de la géologie, voilà, et en même temps comment l'homme habite la Terre et comment l'homme transforme la Terre pour son bien ou pour son mal. Et tout ce jeu-là du rapport entre... aujourd'hui, on est au cœur de toutes ces questions, mais il les a vues très tôt, et il a vu très tôt comment l'homme pouvait... modifier la Terre de façon l'abîmer ou l'aménager et en faire faire une sorte de jardin, faire son jardin pour son bien-être à la fois de la Terre et puis de l'être humain.
Alors il a un style qui est très caractéristique, je dirais, quand on voit des textes, on dit tiens, on sent là un peu comme il y a du reclus, il est à la fois précis et poétique. Je me rappelle dans un livre, quand il décrit la chaîne des Pyrénées, et qu'il dit mais finalement la chaîne des Pyrénées c'est comme une feuille de fougère, et c'est vrai, il a raison, c'est-à-dire qu'elle est fine au départ, fine à l'arrivée, entre les deux elle s'étend, et puis son style poétique, l'histoire du ruisseau, c'est typique. Vous en avez pris un extrait, d'ailleurs, je crois, dans votre livre, de l'histoire du ruisseau.
Oui, l'histoire d'un ruisseau, dans l'anthologie, il y a une partie qui est consacrée un chapitre qui est consacré au bain.
Oui.
Voilà. Parce que donc, l'histoire d'un ruisseau, il suit un cours d'eau, qui n'est pas, c'est un archétype de cours d'eau, de sa source jusqu'à la mer, jusqu'à l'embouchure du fleuve. Pour faire ça, il parle en géographe, il parle en historien, il parle en archéologue, il parle en géologue, en botaniste, mais il est aussi poète, philosophe. Enfin, il se pose toutes sortes de questions et il avance comme ça. Et à un moment, donc il y a ce passage, ce chapitre que moi j'aime beaucoup sur le bain, où il parle du plaisir de se baigner nu. Il se baignait nu quand il pouvait. Et là, c'est très très sensuel, c'est très poétique, et il y va. En fait, il a pas. C'était un livre qui était destiné aux élèves, en fait. Hein. C'était un livre pour éduquer. Hein. C'était pour. Mais il n'a pas peur d'aller dans des choses très sensibles, dire qu'il n'y a pas de cloison entre la science et les sens, on va dire, que les choses se réunissent dans l'être humain et dans son écriture aussi.
Oui. Alors. Évidemment, c'est un militant engagé pendant la Commune de Paris. Il est arrêté, je l'ai évoqué, le 4 avril. Que va-t-il devenir ? Il a des témoignages de moments difficiles.
Oui, alors, donc il est arrêté effectivement en avril, donc un peu avant, la semaine sanglante. Donc il va partir avec des milliers d'autres, il y a quasi 50 000 personnes qui sont prisonnières tout d'un coup, qui sont déclarées hors la loi. Donc il va être emprisonné dans différents endroits, il faut trouver des prisons. Donc il va cheminer dans 14 lieux différents, dans des conditions assez atroces, dont on en témoignera dans un livre qui paraîtra de Lissagara, qui paraît après la... Ben après la Commune, bien sûr. Donc, il a ses moments difficiles, mais il continue, il enseigne, il donne des cours de géographie à d'autres prisonniers, il donne des cours de langue, puisqu'il était polyglotte. Et il y a quand même un mouvement qui se dessine en faveur de sa libération, parce que c'est quand même un savant...
Je crois que Darwin va signer.
Oui, alors
à la fin, Kropotkin va signer.
À la fin, ouais. À la fin, il y a cette pétition, effectivement. Donc ça, c'est international. Hein. Mais même avant, il y a des gens chez Hachette ou Pierre Juliette Sol, qui était son autre éditeur, qui se manifestent et qui disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Comment on peut vous aider ? Vous avez des choses à faire en dehors de la prison. Comment on peut vous aider ? Et lui, à chaque fois, il dit rien. Ne faites rien. Des choses suivent leur cours. Et il n'avait pas du tout envie de bénéficier d'avantages, de privilèges.
C'est sa morale.
C'est sa morale, et qui était d'ailleurs très partagée avec son frère Élie, qui dit c'est bien que tu sois condamné, parce que comme ça, enfin, on va jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Il n'y a pas de rupture d'égalité. Tu es condamné avec d'autres, et bon, voilà.
Ce qui fait que, d'ailleurs, Élisée n'a quasiment pas participé à la Commune de Paris,
très peu,
à la différence de son frère Élie, qui a publié aussi un livre, d'ailleurs, sur la villa au moment de la Commune. Alors. Après, donc, il va heureusement sortir des pontons, sortir des prisons. Il va être exclu de la France. On va l'envoyer. Enfin, il choisit la Suisse, si je me souviens bien.
C'est ça.
Et après que il a une grande notoriété, mais c'est malgré sa notoriété. Il va avoir quelques difficultés, notamment la question de Bruxelles.
Oui, alors ça, c'est à la fin de sa vie. Hein. Mmh. Donc, là, on est en 1800. Donc, il y a l'épisode suisse, où là, il écrit la nouvelle géographie universelle. Donc, et puis, en 1892, l'Université libre de Bruxelles lui propose de venir enseigner la géographie, ce qu'il n'a jamais fait. En fait, il a écrit beaucoup, il en a parlé, il a écrit des choses, mais il n'a pas enseigné. Et donc, il est d'accord. D'ailleurs, il va avec, ils vont avec Élie. Mais 1892, 1893, il y a un certain nombre d'attentats anarchistes en France, son nom circule. Les reclus, le rapport entre les reclus et ces attentats. Et du coup, l'université de Bruxelles recule et dit, bon, finalement, non, on retire notre proposition. Mais la célébrité d'Élisée Reclus, son savoir géographique, enfin son importance vraiment comme savant est telle que il y a des pétitions, il y a un gros débat dans l'université, les étudiants, les enseignants disent non, c'est pas possible, il faut qu'ils viennent, et finalement l'université explose et donc il y a une scission et il va enseigner dans la nouvelle université libre de Bruxelles. Voilà. Et donc là, ce sera encore une nouvelle vie ces 10 dernières années où il va enseigner, où il va continuer à penser des questions de géographie qui le préoccupent, notamment la question de la représentation de la Terre. Et...
Il y a une tombe, Élisée Reclus.
Alors, c'est une plaque. Une plaque. que je suis allée voir. C'est une plaque dans le cimetière d'Ixelles avec les deux noms, Élie et Élisée Reclus, avec leur date. C'est tout. C'était la fosse commune. Oui. Chacun a souhaité. Et chacun a été enterré de la même façon, c'est-à-dire une seule personne à l'enterrement, le fils d'Élie, Paul Reclus. Personne d'autre. Alors qu'il y a une nécrologie, quand il est mort, il y a eu beaucoup d'articles. Hein, personne d'autre. Oui, et une simple plaque.
Vous connaissez la phrase de Brassens, quand ils sont morts, les morts sont tous de braves types. Hein, voilà. Et dans ce cas-là, on en sens. Oui. Et puis il y a une plaque, et puis voilà.
Il y a une plaque, et voilà, c'est tout.
Alors, sur la partie anthologique, comment avez-vous sélectionné les textes? Parce que c'est
énorme.
Énorme.
Oui, alors j'ai fait un peu comme ça, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai assez vite compris qu'il avait écrit toutes sortes de choses, qu'il avait beaucoup écrit. Il avait une correspondance très nourrie. Il y a ses 27 volumes de géographie. D'œuvres de vulgarisation géographique. Il y a des récits de voyage, il y a des articles politiques. Donc, j'ai eu envie, tout simplement, de montrer toute cette diversité, cette palette, à la fois en mettant en avant des choses qui étaient peut-être connues, voter, c'est abdiquer. C'est ce texte qui est connu.
Il est célèbre. Hein,
voilà.
C'est bien que vous l'ayez ressorti. Très bien.
Donc des textes connus, oui. Et puis des textes moins connus. Mmh. Je pense notamment à des lettres, parce que après sa mort, il y a 3 volumes de correspondances qui sont publiés par une de ses sœurs, Louise. Mais il y a aussi des lettres qui sont pas publiées ou mal connues ou peu publiées ou peu connues. Bon, et donc j'en ai choisi une qu'il écrit à Clarisse Briand, sa première femme, que je trouve très belle parce que c'est à la fois une lettre d'amour, mais une lettre d'amour d'un géographe qui ne peut pas s'empêcher quand il parle d'amour de parler de géographie, mais il en parle avec beaucoup de poésie.
Alors il a aussi écrit par exemple sur les crétins des Alpes.
Oui. Alors ça, c'est un très très beau texte,
oui.
Qui dans Histoire d'une montagne, qui est donc le pendant de Histoire d'un ruisseau, qui est donc publié aussi par chez Pierre-Jules Hetzel, l'autre grande figure éditoriale du 19e siècle. Histoire d'une montagne, pareil, on tourne autour de ce motif géographique de la montagne, et il y a un chapitre qui est consacré à cette population qu'on appelait crétin, c'est-à-dire des gens qui avaient une malformation du goitre.
Atteint de crétinisme.
Oui, c'est ça. Et qui avaient un goitre, étaient difformes, avaient été un peu débiles, avaient quelque chose un problème pour se mouvoir, pour parler, pour manger. Mais lui, cet esprit singulier, il en parle de façon magnifique, c'est-à-dire qu'il raconte sa rencontre avec Lady Crétin, qui lui donne en fait une leçon, qui lui indique d'abord qu'il est en train de se promener dans la montagne et il y en a un qui lui dit que c'est pas le bon chemin.
Oui, le chemin.
Il le fait avec, il a pas de mots, donc, mais avec des gestes, et finalement il comprend qu'il se trompe. Et il se dit, mais quand même, cet être qui ne sait pas parler, ne me connaît pas, voilà, débarque. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de m'aider. C'est juste ça. Et il le fait, et il le décrit, c'est très très beau. Et puis après, il rencontre aussi un autre attelage, donc avec un enfant qui aide son... Alors je crois que c'est son frère. Et donc, il voit toute l'humanité, en fait, et toute la simplicité, mais belle, et de ces êtres. Voilà. Et Histoire d'une montagne, c'est aussi ça. C'est aussi des gens particuliers qui habitent, ou en tout cas qui habitaient ces, les montagnes.
Et puis vous avez sélectionné la lettre qu'il adresse au Congrès anarchiste de Barcelone en 1901, que je trouve une lettre très chargée d'émotions.
Ouais.
C'est un de ses derniers courriers politiques, militants.
Oui, hein, c'est très frappant parce que là, il a 71 ans. Il parle de la jeunesse. Enfin, il a quelque chose. J'ai l'impression que jusqu'au bout, il a eu envie de transmettre et de transmettre quelque chose de très vivant en lui, qui est resté très vivant. Et il donne des conseils, mais pas du tout des conseils de pour le dire vite.
De vieux barbons.
Voilà, de vieux barbons. Merci pour barbons. c'est des conseils d'hommes mûrs. Mais qui a gardé une grande vitalité et qui leur dit de se méfier, qui leur dit de réfléchir, de ne pas s'emporter, de toujours d'avoir d'être dans une espèce de grande conscience de ce qu'ils font et de pourquoi ils font les choses. Mais il le fait, ce n'est pas dogmatique, c'est ça aussi qui est très beau, c'est, on sent toute une générosité et un élan qu'il a vers ces jeunes gens.
Oui. Alors, vous avez d'autres projets après ce livre, là, parce que bon, vous passez dans quantité de radios. Écoutez, dans Radio Libertaire, France Culture, alors, vous avez d'autres projets?
Alors, d'écriture, oui, mais c'est trop tôt pour en parler. Ah. Mais je pourrais parler aussi d'un projet qui a peut-être. Enfin, voilà, qui va sortir bientôt. Je me suis occupée plutôt d'édition et de mise en page et de choses comme ça, qui est une nouvelle traduction de l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva, de Lewis Carroll, illustré par Lucille Germanang, et qui est un texte très, voilà, une espèce d'ode à l'imaginaire magnifique, et voilà, donc on sort ça, donc c'est aux éditions de la bibliothèque, et ça paraît au mois de mai.
Bon, bah faudra nous en faire part, comme ça on pourra commenter.
Faudra
tout à fait. Alors on rappelle le titre de votre livre.
Élise et Reclus, penser l'humain et la terre.
De
Isabelle Louviot et Georges Peignard.
Voilà.
Et c'est au Tripode.
Voilà, 2023.
2022.
Très bien. Alors on a parlé beaucoup des anarchistes. Frédéric, Léo Ferré.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Des anarchistes, ils ont tout ramassé, des peignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un pain sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils sont un drapeau noir en perles sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Rien n'a pas sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Alors, nous rappelons, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que vous pouvez retrouver les ouvrages commentés, leurs références sur le blog du groupe Communes de Paris, de la Fédération anarchiste, et que tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la librairie de la FA, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et puis, vous pouvez retrouver certains commentaires sur notre page Facebook, Au fil des pages, c'est le titre de la page, et sur la chronique Des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Troisième temps de l'émission, on pourrait l'appeler Varia, vous savez, c'est, on trouve de tout, c'est une forme de plaisir de découvrir, comme chez les bouquinistes, où on va dans leur caisse et puis on trouve des choses intéressantes. Alors, bah, tout d'abord, on a un moment d'histoire et Frédéric va nous parler du livre d'Anne Steiner, Rirette l'insoumise. Alors, nous retrouverons Anne Steiner pour les 12 heures de l'anarchisme le 3 juin prochain au LAP, rue de Vaugirard, où nous commenterons le livre de Ramon et Tancrède, Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme qui va durer très longtemps. Il y aura des débats et on aura le plaisir de débattre avec Anne sur une partie de la matinée. Alors, Fred, qui est cette Rirette ?
Alors, je vais vous parler ce soir d'un livre biographique, Rirette l'insoumise ou Rirette Maître Jean, écrit par Anne Steiner. J'ai souvent entendu ce pseudonyme et entendu quelques bribes de sa vie, un pseudonyme car Rirette, de son vrai nom Anna Estorg, fut une figure de l'anarchisme du début du XXe siècle et des décennies qui suivirent. Je peux dire même aussi un petit peu la fin du XIXe siècle aussi. Un livre biographique, comme je les apprécie tant, en effet ce livre nous livre un récit de la vie de Rirette très complet, sans pour autant être roboratif et qui va à l'essentiel d'une vie militante, sans non plus tomber dans le minimalisme. Vous y trouverez quelques articles écrits par Rirette, publiés dans le journal L'Anarchie, articles qui, pour certains, entrent en résonance avec les luttes actuelles. Ce livre brosse un tableau d'une époque et d'un courant de l'anarchisme, l'individualisme, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas synonyme d'égoïsme du chacun pour soi, bien au contraire. Rirette a rencontré beaucoup, beaucoup d'autres anarchistes, dans un esprit de solidarité, d'entraide, et en annexe, avec ce livre, vous découvrirez d'autres noms de l'anarchisme de la Belle Époque. Enfin, Belle Époque pour les nantis, et c'est certainement pas pour les autres. Des noms d'anarchistes, donc, qui pour certains et certaines d'entre vous ne vous seront pas inconnus, comme Victor Serge ou Libertad. Rassurez-vous des fiches biographiques des principales personnalités citées sont dans le livre et présentes dans la fin de l'ouvrage. Pour ma part, j'ai appris beaucoup grâce à ce livre. Je ne peux que vous recommander cet ouvrage que j'ai lu avec plaisir et qui restera longtemps dans ma bibliothèque pour épuiser des éléments historiques. Alors, je vous rappelle les références. Rirette l'insoumise d'Anne Steiner, édition 1000 sources au prix de 13 €, que vous pouvez retrouver et commander chez Publico. Je te repasse le micro.
Alors, voilà. un premier petit livre intéressant et un autre livre, toujours dans la série « Un moment d'histoire », le livre de Chalamoff, « Souvenirs de la Colima ». Alors, Chalamoff, la Colima, deux noms accolés qui ont marqué la découverte par l'Occident de l'horreur des camps staliniens, l'horreur de l'arbitraire, l'horreur de l'absurde. Nous avons lu, on a été nombreux en tout cas à lire, les récits de la Colima, une somme, une référence. Et sur Radio Libertaire, j'avais présenté son opuscule, Mes bibliothèques, publié aux éditions Interférence en 2019. Il y traduisait la passion des livres. Et il avait notamment cette phrase « Les livres sont des êtres vivants, ils peuvent nous décevoir, distraire. Les livres sont ce que nous avons de meilleur en cette vie, ils sont notre immortalité. Je regrette de n'avoir jamais possédé ma propre bibliothèque. » Phrase terrible. Les éditions Verdier ont poursuivi leur travail de publication complète des œuvres de prose de Chalamoff, avec là les souvenirs de la Colima. Et finalement, c'est assez fort, c'est assez intense. Chalamoff est assailli par le doute. Il se demande si ça sert vraiment de publier, à quoi ça sert, qui va lire ce texte. Et évidemment, pour nous, c'est toujours une réflexion, c'est toujours un moment extrêmement intense de voir, de découvrir ces pages. Alors, il ne sait même pas comment écrire, dans quelle langue, le style, le vocabulaire, qui va comprendre. Et puis, vous rentrez au fil des pages, vous rentrez dans le chemin de l'enfer, les interrogatoires, les menaces, les témoins. Attention, on n'oublie rien dans un monde totalitaire. Les archives sont redoutables et conservées à perpétuité. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez écrit à tel moment? Et on va comparer ce que vous avez écrit quand vous aviez 20 ans et ce que vous avez écrit ou ce que vous avez dit 15 ans après. Et qu'est-ce qui est le plus grave? Il y a une interrogation de Chalamoff quand on est dans les camps. C'est de survivre à de grandes souffrances ou de mourir avant de les subir. Vous lirez. Les souffrances, pour nos jeunes auditeurs, évidemment, je le précise, concernent la vie dans les camps et ils nous interpellent l'arrivée, l'immatriculation, la peur, l'arbitraire, les chiens, le froid, les coups. Et puis un dénuement. Il y a une scène qui est terrible quand on voit que le détenu n'a même pas de cuillère, n'a même pas de fourchette. Il a une gamelle et il mange avec ses doigts. On est dans une déshumanisation totale. Il y a aussi une atteinte à la dignité qui est assez fascinante. Tout est fascinant, tout est odieux. Plus tard, dans le livre, vous rencontrerez, avec Chalamoff, un partisan de Macno. Vous lirez aussi le passage sur le mouchard. Bah, ils ont toujours été là, les mouchards, vous savez, ceux qui vont essayer de vous dénoncer pour avoir une illusion d'amélioration de leur vie. Et puis, j'ai évoqué en début la passion de Chalamoff pour les livres. Il y avait une bibliothèque dans le camp, c'est assez étonnant d'ailleurs, avec des œuvres notamment de Kropotkin, incroyable. Dans un camp stalinien, vous avez des œuvres de Kropotkin. Il y a de très belles pages, vous lirez sur ça. Et puis, des portraits des écrivains et des poètes déportés sont fascinants. Alors, une pensée pour ceux qui auront été arrêtés, torturés, pour avouer n'importe quoi, fusillés. Vous aurez des passages sur la Loubianka, vous verrez tous ces vieux bolcheviks qui disparaîtront. Et un passage aussi sur Pasternak et son docteur Jivago. Toute une poésie, toute la poésie de Pasternak qui n'a pas écrit que le docteur Jivago. Et j'invite aussi à faire le lien entre les méandres des relations entre le pouvoir stalinien, sa bureaucratie, et les écrivains qui pourraient être écrits par George Orwell. Et un point étonnant de ce livre, et on était nombreux à ne pas très bien comprendre ce que cela signifie, Chalamoff a publié en fin d'ouvrage 46 enseignements de cette épouvantable expérience. Alors, vous les lirez, c'est intéressant, mais certains d'entre eux me font écho, me font penser à ce livre de Primo Levi, Si c'est un homme. En tout cas, c'est vraiment un livre intéressant, que je considère comme terrible, mais qui doit nous donner à réfléchir sur la manière dont une société peut broyer les individus. Frédéric, nous allons passer un chant très court, le costume neuf, qui est un extrait de chant de Goulag. Vas-y.
Костюмчик новенький, колесики со скрипом. Я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горе видел, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой. А мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой. А мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой. Костюмчик новенький, колесики со скрипом, я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горе видел, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой. А мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой. А мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой.
Eh bien, en attendant notre ami Dominique, justement, je vais vous lire quelques-uns des enseignements que Chalamov a vu et compris, ce que j'ai vu et compris dans le camp. C'est le titre de ce chapitre. Point numéro 1, l'extrême fragilité de la culture humaine, de la civilisation. En 3 semaines de travaux pénibles, de froid, de faim, et de coups, un homme devenait une bête féroce. Ou encore, j'ai compris que l'amitié, la camaraderie, ne naissent jamais dans des conditions difficiles, véritablement difficiles, là où la vie est en jeu. L'amitié naît dans des conditions difficiles mais supportables, à l'hôpital, pas au front de mine. J'ai compris la différence entre la prison qui renforce le caractère et le camp qui déprave la nature humaine. Encore une autre, j'ai compris que les victoires entre guillemets de Staline furent remportées parce qu'il tuait des innocents, alors qu'une organisation 2 fois moins nombreuse que ces innocents, mais qui aurait été une véritable organisation, aurait balayé Staline en 2 jours. J'ai compris ce qu'est le pouvoir et ce qu'est un homme avec un fusil. Que passer de l'état de détenu à celui de libre est très difficile, presque impossible, sans une longue période de transition. Et c'est toute la difficulté de ces hommes et de ces femmes qui ont pu sortir des camps et qui n'ont pas pu se retrouver une forme de liberté parce qu'ils avaient connu une véritable souffrance. Et puis, peut-être cette dernière, que l'écrivain doit être étranger à ce qu'il décrit et que s'il connaît bien son sujet, il s'exprimera de telle façon que personne ne le comprendra. Un personnage assez étonnant de la part de des propos étonnants de la part de Chalamov, mais c'est un personnage extrêmement profond. Frédéric, un petit peu d'intermède musical. Alors, Dominique, bonjour.
Oui, bonjour Francis.
Bon, alors, aujourd'hui, nous avons un personnage un peu curieux, là, une forme d'Arsène Lupin.
Oui.
Alors, tout d'abord, le titre, L'Arsène Lupin des Galetas, aux éditions du Cerf, fait
oui.
2022. Alors, l'auteur, déjà, qui est Phil Cazoar?
Alors, c'est le pseudo hein, de Philippe Guédon, qui naît en 1956, qui est un historien, on le verra dans le travail qu'il a fait, journaliste, dessinateur, écrivain, proche, assez proche du mouvement libertaire. Il a travaillé à Actuel, à Libé et à Fuite Glaciale.
Alors, qui est ce Lupin italien? Raconte-nous son histoire.
Alors, donc c'est très drôle. J'ai pris un grand plaisir à le lire, hein, parce que ça, c'est vraiment une lecture détente. Et en même temps, on apprend beaucoup de choses. Alors, c'est l'histoire de Raoul Saccorotti, qui est né à Rome en 1900, mais qui a vécu à Gênes. C'était un petit chapardeur hein, qui échappait sans cesse à la police. Bon, jusqu'au jour, il a fallu quitter l'Italie parce qu'il commençait à être connu. Il s'est donc enfui vers Grenoble. Et il a participé au chantier du barrage du Sauté. Mais il va se mettre à cambrioler pendant 8 ans, hein, entre 1930 et 1938.
Attends, excuse-moi, le barrage du Sauté, c'est dans quel coin, ça?
C'est à côté de Grenoble.
D'accord.
Donc, il va cambrioler les fameux galetas. C'est un mot un peu suranné, hein, qu'on n'emploie plus, dans lequel les gens entassaient leurs objets de valeur. En même temps,
quoi,
il était marin.
C'est quoi les galetas?
C'est des greniers.
C'est des greniers, d'accord.
Oui, oui. Mais on n'emploie plus ce mot. Hein. On l'emploie beaucoup dans la région lyonnaise encore. Alors, il était lui-même. On va voir toutes les contradictions du personnage. Il était marié bourgeoisement avec la fille d'un tailleur très chic, socialiste et franc-maçon. Alors, évidemment, ce mariage ne tiendra pas longtemps quand le beau-père va s'apercevoir que c'était un cambrioleur. Alors, les policiers ont retrouvé chez lui, je vous lis pas tout, mais des pots de léopard, de la vaisselle, des armes anciennes, des garnitures de cheminée, des roues de bicyclette, un violoncelle, des cannes, des parapluies, et même une défense d'éléphant.
C'est un truc à la Prévert, ça. C'est
oui, oui. Alors, il vole beaucoup, mais il redistribue à ses compatriotes italiens immigrés en France. Donc, c'est un peu un Robin des Bois, on va dire. Hein. Alors, la police ne parvient pas à l'arrêter, et donc la presse va l'appeler l'Arsène Lupin des Galetas. Signalons aussi que, pour faire le rapprochement avec Arsène Lupin, que Raoul, c'est l'autre prénom du Lupin de Maurice Leblanc. Il prenait souvent le prénom de Raoul, Raoul de Miézy, Raoul d'Andrézy, donc c'est quand même troublant cette ressemblance. Alors ce Lupin a eu de multiples surnoms, le nouveau mandrin, l'anarchiste expropriateur... Et dans le même temps, il fait de la politique. Hein. Mais alors, on ne sait pas très bien pour qui il fait de la politique. Il croise la cagoule, il cache des armes, il diffuse des tracts du mouvement antifasciste italien, il envoie des armes à Barcelone, mais on ne sait pas exactement si c'est pour les Républicains. Alors, bref, il est accusé, que ce soit par la gauche ou par la droite, vraiment d'être un saboteur, d'être un espion, un cagoulard, un agent des fachos, ou alors un trotskiste, un anarchiste. En fait, tout le monde, tous les journaux lui tombent dessus. L'extrême droite dit que c'est l'Arsène Lupin de Moscou. Le Parti communiste dit que c'est un mouchard, donc c'est un flic. Hein. Alors, en juin 40, il sera interné au camp du Vernet avec Arthur Kossler et des républicains catalans comme Antonio Ortiz. Puis, il s'enfuit en Italie. Et en Italie, il sera aussi rattrapé par la troupe et il ira donc dans le terrible camp des îles Termini en Italie. Il va y croiser aussi des anarchistes italiens. Et enfin, il termine sa vie en se mariant avec une princesse russe, qui ressemble d'ailleurs à la belle Olga de Maurice Leblanc. Et cette dame fait partie de la famille Eristov, la vodka. Et donc, il se mettra à fréquenter des Russes blancs. Il participera à des actions d'espionnage durant la guerre froide et il meurt enfin en 1977. Donc, c'est plein de rebondissements. Et
C'est une enquête ?
Oui, oui. Alors, c'est une enquête. C'est assez gros, 550 pages. L'auteur, le journaliste, a mis 15 ans hein, pour écrire ce livre. Il parlait pas un mot d'italien, mais à force de déchiffrer les documents de la police secrète mussolinienne, des articles de journaux, il a réussi à comprendre l'italien. Il a ramassé, alors d'ailleurs on le voit dans le livre, il publie des articles de presse, des PV de police, des inventaires de biens, des lettres de défense de Raoul. Et cet auteur a été partout, dans tous les lieux où cet Arsène Lupin, à Grenoble, aux archives départementales, aux archives italiennes, suisses, espagnoles. Il a été à Gênes, il a été à Barcelone, il a été dans les fameuses îles de Tremiti, sur le camp du Vernet. Et alors, il dit que grâce au régime totalitaire et policier du XXe siècle, avec leur banni de fichage, il a pu avoir accès à toutes les fiches sur ce Raoul.
Ah bah c'est un peu ce que j'expliquais sur la notion de bureaucratie stalinienne, c'est qu'effectivement, on garde tout. Alors, oui. C'est quand même assez étonnant, pourquoi les éditions du CERF ?
Oui, parce que rappelons que c'est quand même un éditeur catholique, hein, ce sont des dominicains qui ont créé cette maison d'édition. Alors, il y a plusieurs raisons. La légende familiale dit que les Saccharotti, le grand-père de Raoul, était un enfant naturel du pape Pie IX.
Ouais,
bon, on peut pas le prouver. Ouais. Raoul était considéré comme un précurseur des chiffonniers d'Emmaüs de l'abbé Pierre, puisqu'il redistribuait aux nécessiteux. En plus, il se déguisait en ecclésiastique aussi pour commettre ses larcins. Donc,
ouais,
tout ça
c'est
fait
un peu comme Arsène Lupin, quoi. Oui, tout
oui.
à fait.
Voilà.
Alors, est-ce qu'un tel personnage pourrait encore exister aujourd'hui ?
Non, alors l'auteur dit que non, parce que d'abord les galetas comme ceux que Raoul avait l'habitude de cambrioler n'existent plus, ils ont été transformés en studios pour étudiants, cambriolés tout en douceur sans effraction, avec des fausses clés ou des passe-partout, c'est presque impossible avec les serrures de sécurité, les codes. Quant à redistribuer aux nécessiteux le produit des larcins, on n'en connaît plus guère. Bon, et puis quant à moi, je pense que les cambriolages comme ça à l'ancienne n'existent plus. C'est vraiment les grosses arnaques sur Internet hein, qui marchent. Par exemple, la grande arnaque du CO2 avec une blonde de pieds nickelés qui pourrait faire penser à Arsène Lupin. Mais eux, ils ont réussi à escroquer quand même l'État et l'Union européenne de 10 millions d'euros. Et puis, ils ont absolument pas redistribué. Hein.
Bon. Donc, alors, on rappelle le titre de l'ouvrage.
Donc, c'est l'Arsène Lupin des Galtas, de Phil Casoir, aux éditions du CERF.
D'accord. Alors, on va se retrouver dans 15 jours, Dominique, et là, ça sera non pas sur un témoignage, mais plutôt sur la poésie, le son des mots, là.
Oui, et puis des poètes du quotidien. Donc, j'ai déjà parlé de Christian Bobin, mais donc là, je présenterai le dernier livre qui est paru chez Quarto, qui montre qu'en fait, c'est un poète du quotidien, mais il n'est pas si optimiste que l'on croyait.
Et puis
Étienne Faure, qui, en fait, je m'aperçois que c'est le poète du 11e arrondissement. Donc,
c'est parfait, là.
Donc, on sera dans les lieux.
C'est un voisin, parfait.
Oui.
Donc là, on se retrouvera le 26 avril pour... la présentation du recueil Quarto de Bobin et puis de c'est Vol en V, je crois, d'Étienne
Faure.
Oui,
Vol en V, Étienne
Faure.
Oui.
Bon, écoute, merci Dominique et à dans 15 jours.
Oui, à bientôt.
À bientôt. Voilà, chers amis. Quelques livres auxquels nous tenions et que nous souhaitions vous faire partager. J'espère que vous aurez du plaisir, de l'intérêt, que vous irez évidemment acheter ces livres, c'est toujours le but. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci encore pour votre écoute et votre fidélité. Comme je le disais, nous nous retrouverons dans 15 jours, le mercredi 26 avril 2023, et nous recevrons, en plus de Dominique pour nous parler de Bobin et Faure, nous recevrons Virginie Dupérou pour son livre « Amiante et mensonges », un livre très émouvant, mais aussi un livre de lutte, publié aux éditions Valmont. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
Avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu.